De 17h à 18h. Blabla Mix.
Salut à tous et bienvenue dans votre Blabla Mix en direct de Radio HDR au 99.1 et sur Principe Actif à Évreux au 102.4 et dans le sud de l'Eure au 95.9, c'est le mix des cultures. On est là, on est bien comme tous les soirs et nous avons ce soir, comme tous les soirs, nos stagiaires qui viennent vous parler de foot. Messieurs, bonsoir, Buron et Pamedi. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait sous le coude rapidement, très vite, un petit sommaire.
Là, des matchs de Ligue des Champions. Hein.
Très bien, je crois que ça va intéresser tout le monde.
Ah, bah oui.
Nous sommes également, bien sûr, avec nos invités qui ce soir sont Cédric et Louis de Archimède Film qui vont nous parler de leur projet, c'est ça, messieurs ?
C'est ça, ouais.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, et on a hâte de retrouver ça. Et nous sommes avec notre aimable et inestimable réalisateur Jérémy. Bonsoir, Jérémy.
Bonjour, je réalise.
Voilà, Jérémy qui réalise dans tous les sens du terme, il est incroyable.
Je réalise du matin au soir et même la nuit.
Eh oui, c'est comme ça qu'on le connaît, nous on arrive, il réalise, on part, il réalise. Et surtout, il lance la musique à la fin de sommaires de haute qualité, n'est-ce pas Jérémy ?
Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, pour cette première musique du Blabla Mix du jour, je vous propose Bones avec son morceau Résurrection.
Oh man, here we go again. You've been waiting, huh? It's a dead boy, back from the grave.
Oh,
oh yeah.
It's a dead boy.
Et c'était Bones, Résurrection, et vous êtes toujours sur le Blabla Mix avec nous jusqu'à 18h.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et dans le Blabla Mix à 17h05, vous êtes habitués maintenant, c'est la chronique sport de nos amis Buron et Pamedi.
Exactement, là aujourd'hui on va parler un peu de la Ligue des Champions, c'est ce qui est en tendance en ce moment. Avant-hier on a eu la remontada de la Juventus, hein, avec une incroyable prestation de Cristiano Ronaldo.
Je vous ai entendu en parler, mais c'est vraiment tout ce que j'en sais.
Ah non, mais il est très très fort, il a mis un triplé, donc il a été homme du match bien sûr, et très décisif dans les matchs importants comme ça. Et Plamedi, je sais pas si t'as un avis à nous donner sur ce match.
Oui, Cristiano Ronaldo a été très bon et il a su mener l'équipe vers le tour suivant de la compétition. Voilà.
Et du coup, là, ils se sont qualifiés en quart de finale. Et maintenant, hier, il y avait eu aussi le match du Barça.
Oui. Messi qui a mis 2 buts et 2 passes décisives face à l'équipe de Lyon. Et il a juste été incroyable. Voilà.
Mais le meilleur reste quand même Ronaldo. Hein, Flamedi ?
Non, pas du tout.
Non, mais après, il y a eu le match aussi de Liverpool-Bayern. Victoire de Liverpool, qui sont aussi qualifiés du coup. Il y a eu Manchester City aussi qui a gagné, enfin qui a fait une victoire écrasante 7-0 contre Schalke. Et du coup, ils sont aussi en quart de finale. Et demain, on attendra le tirage au sort pour le quart de finale de la Ligue des Champions.
Il y a plus un match avec Rennes là, où ça s'est pas très bien passé pour nos amis bretons hein.
Non, justement. Et ça s'est très bien passé.
Ça
pour
s'est
eux.
Très bien passé.
Il y a eu 3-1, mais là, du coup, il y a le match retour ce soir. On
D'accord.
attend Arsenal-Rennes. On espère qu'il n'y aura pas une remontada d'Arsenal quand même.
Arsenal-Rennes, moi, à mes yeux de profane, je dis souvent à mes yeux de profane à l'antenne, chers auditeurs, à mes yeux de profane absolu de tout, j'ai quand même l'impression que Rennes a peu de chance, non ?
Rennes a gagné, ouais, tout le monde, enfin, ils n'étaient pas favoris au début, ils ont gagné quand même 3-1 chez eux. Là, ils vont jouer à l'extérieur en Angleterre ce soir. Je pense qu'ils vont se prendre des buts quand même, mais bon, après, j'espère qu'ils vont être qualifiés quand même.
Mais,
c'est un club français.
Comment Rennes a fait pour battre Arsenal ?
Il a très très bien joué. Par exemple, première mi-temps, c'était pas trop ça, mais deuxième mi-temps, ils ont la possession de balles, les tirs, tout ça. Ils ont 3-1, du coup.
Ok, c'est plutôt impressionnant. Vous avez des pronostics, messieurs,
pour le match de ce soir ?
Ouais.
Je pense qu'Arsenal, ils vont pas se laisser faire, surtout qu'ils jouent à domicile. Donc, il est très 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 possible qu'une petite remontada d'Arsenal.
Allez, on veut un score. On veut un pronostic de score.
Moi, j'aurais dit un 4-1 pour Arsenal.
Oula !
Ouais,
oula.
Clairement, là, ça, c'est un match d'Europa League. Donc, du coup, et toi, Plamidi, tu as entendu quoi ?
Moi, je dirais 3-2 pour Arsenal.
Vous n'êtes pas très optimiste pour les Français, messieurs ?
Non, mais c'est pas... parce que là, c'est Arsenal. C'est Arsenal, quand même.
But de qui, là, pour Arsenal, à votre avis ?
Aubameyang va nous mettre un petit but.
Je connais, je crois, son nom.
Ouais.
Et sinon, puisque quand même Radio HDR, c'est la radio qui est proche de ses auditeurs, vous-même, messieurs, on peut le révéler maintenant, quitte à avoir une nuée de fans devant la station dans 5 minutes. Buron, tu es défenseur du FC Sapin, non ?
Oui, exactement.
Un peu le défenseur star, le Sergio Ramos du FC Sapin, m'a-t-on dit ?
Voilà, Sergio Ramos, carrément.
Qu'est-ce qui se passe au FC Sapin en ce moment ?
En ce moment, on est sur une très belle série de victoires. Hein.
Ouais, je vois également Victor dans le studio de l'autre côté, également défenseur star du FC Sapin. Défenseur plus calme, mais néanmoins dynamique, qui nous fait des signes pour nous dire que ça va jouer bientôt, non ? Ah, les défenseurs sont en train de communiquer.
Victor. Moi, je vois que Marion est désolé d'assister que sa chronique agenda a été remplacée par une chronique de foot. Et elle ne m'entend pas. C'est encore plus drôle. Bonjour Marion.
Marion ne peut même pas répondre. Marion, notre stagiaire, vous vous en souvenez, qui est de retour parmi nous, qui essaie de s'emparer du micro.
Qu'est-ce que tu as dit, Jérémy ?
On en reparlera après, Marion.
D'accord, merci.
Et également, donc, parce qu'on parle du FC Sapin, mais on aime bien aussi nos copains de Biorel. On a également un joueur de Biorel ce soir, non ?
Oui, oui.
Pamedi, tu jouais quel poste à Biorel ?
Milieu central.
Bon, alors, vous jouez des matchs en ce moment, messieurs ?
Oui, moi j'ai match ce week-end.
Ouais, contre qui ?
Évreux.
Évreux ? Et vous, FC Sapin ?
Oui, nous aussi on joue, mais je sais pas comment on joue contre qui.
Bon, c'est la surprise pour le FC Sapin.
Non, mais parce que nous on a entraînement tous les jeudis et le coach il nous dit jeudi.
Et c'est pour ça qu'ils nous quittent tôt ce soir, nos amis du FC Sapin. Et donc, bien sûr, merci messieurs. Et pour rendre peut-être un petit hommage à notre stagiaire Marion qui faisait l'agenda avant de partir, on a de l'agenda ce soir puisqu'on a Speakeasy, le spectacle de la compagnie The Rat Pack, qui jouera demain soir à 20h30 à la salle Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors, c'est à mi-chemin entre théâtre et cirque. J'ai regardé tout à l'heure des petits trailers sur Internet pour vous. C'est vraiment une ambiance de film de gangster, un peu Scorsese ou Coppola pour les aficionados, peut-être pour Mansour qui nous fera sa petite chronique tout à l'heure. C'est des acrobates, des danseurs, des comédiens, c'est plutôt impressionnant. Je vous invite à aller voir ça, en tout cas moi, je pense que j'irai. C'est un spectacle d'une heure, de 10 à 20 euros. Et pour acheter un billet, c'est au 02 32 91 94 94. 02 32 91 94 94. Speakeasy de la compagnie The Rat Pack, demain soir à 20h30, au Rive Gauche. Et sinon hier, puisque à Radio HDR, c'est une radio qui bouge, nous sommes descendus également voir nos amis de Gramont, au Centre Social Gramont, et nous avons fait votre chronique que vous aimez bien, Mon Gramont à moi.
Maïs Tossé, animateur ici, enfin on fait du bricolage, on fait de tout, et puis en même temps je suis président du comité Gramont, des clubs des anciens. On récupère un peu des dons et tout pour partir en voyage, pour faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Comme là, le 22, on s'en va à Marcanterre, dans la Somme. On a récupéré un peu d'argent, toc toc, comme ça on va partir là-bas avec 20 personnes âgées. On va prendre des photos, on va faire plein de trucs, quoi. Ça fait 64 ans que j'habite ici. Hein. Ça a super évolué, ça a super bougé. C'est des autres activités, des autres personnes. C'est mieux, c'est beaucoup d'associations. Et ça fait bouger, ça fait bouger les gens du quartier plus qu'avant. Il n'y avait qu'une association. Maintenant, il y en a, on doit être une dizaine, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a la médiathèque là-bas, il y a le grand terrain, il y a le parc, il est pas mal, il est même beau. Hein. C'était là où il y a eu les abattoirs avant. Sinon, le terrain de foot, il y a les boules, il y a les concours, il y a ça bouge plus qu'avant, je crois. J'ai commencé au centre de vie, il n'y avait pas le centre de vie sociale, il n'y avait rien. C'était des baraquements qu'il y avait avec un ancien directeur. Et on a commencé là en tant qu'animateur, on faisait des campings, on faisait des trucs. Après, ils ont rasé ces trucs-là, ils ont fait ça. C'était pas mal, quoi. Bon, au début, c'était bien. Et après, bon, c'est un peu délabré, quoi. C'était les moines Gramonnais qu'on donnait, c'était à eux, le Gramont, c'était à eux. C'est marqué sur une plaque là-bas depuis 1600 et des poussières, et ça a été donné à Gramont. Gramont, c'est un village, tout le monde se connaissait, il y en a qui se sont mariés ensemble, il y a des grandes familles qui restent encore, qui habitent ici. Ils sont séparés, ils sont tous dans le quartier, mais ils avaient une maison là-bas. Il y avait des petits contre-moulins, c'est grand, tout le monde se connaît ici. Hein. Quand il y a quelque chose, tout le monde vient, tout le monde est là. Quand tu vois le soir tous les petits jeunes que j'ai connus tout minot, ils viennent te dire bonjour, ils te reconnaissent quand même, ils savent bien. Et maintenant, les mecs, il y en a, ils ont 30 ans, 32 ans, 30 ans, ils ont des gosses et tout, mais ils viennent toujours, ils sont toujours dans le quartier. Hein. Quand il y a des fêtes, des machins, on les voit toujours, les gars. Et Gramont, ils cherchent des appartements ici pour leurs enfants et tout, ils veulent revenir, il y en a qui reviennent, il y en a qui sont loin ailleurs, ils reviennent. C'est vrai qu'il y avait des fêtes, quand on faisait une fête, c'était l'autre il tapait, ça tapait à la porte, moi il était là, c'est le voisin, c'est l'autre, et puis c'était des fêtes grandioses qu'on faisait des gros trucs, hein, comme les fêtes Saint-Jean, les trucs. Ça maintenant, bon, c'est un peu arrêté, c'est. Les fêtes Saint-Jean, on faisait des feux, il n'y avait pas les terrains de foot, il y avait une grande salle de sport, un vieux truc, et il y avait les feux qui étaient dehors, on faisait des feux là. C'était bien, mais il y avait du monde, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est des photos des anciens, ils vont les retrouver, des trucs comme ça, c'est très chouette. Moi j'en ai des tonnes, là, faut que je revoie les gars pour leur filer, parce que là, j'ai des tonnes de photos du quartier, de ce qu'on a fait. Et au fur et à mesure que je retrouve des gars qui viennent, hop, je leur file leurs photos, des gamins, tout le monde qui avait 7-8 ans, quoi. Que tout le monde se connaît, tout le monde vient au centre. tu prends le café, tu es tranquille, tu causes, tu vois un tel qui passe, l'autre qui vient à la poste, l'autre qui vient. Tu vois plein de monde, tu vois du monde qui passe tout le temps.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Eh oui, Gramont, c'est une ambiance particulière. Et avant de retrouver Mansour, on va s'écouter une petite musique que, messieurs, vous connaissez bien, je crois. J'en profite pour celui-là. Nous avons été rejoints par Adrien également.
Bonjour.
Bonjour Adrien, toi aussi, tu as fait partie de ce projet.
Oui, un peu de loin, mais je fais partie du groupe qui a participé à ce projet, on va dire, plutôt.
On va en parler plus en avant après la chronique de Mansour. Et d'abord, on va donc s'écouter The Smiths, Panic, qui apparemment est un morceau du film.
Ouais, alors elle est dans le film Shaun of the Dead, et nous on l'a intégré, on l'a repris aussi, parce que c'est une des séquences, nous on a repris une séquence qui est le plan séquence du film, où il découvre qu'il y a les zombies, tout ça. Et du coup, on a ajouté cette petite musique qui colle super bien, voilà.
Super.
C'est mon humble avis, bien sûr.
17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Voilà, donc on se retrouve avec le docteur Mansour pour la suite de l'histoire incroyable de Lucky Luciano et des mafias en général, le crime organisé italo-américain. Salut docteur.
Bonjour, bonsoir. Donc on avait vu que Lucky Luciano était arrivé à la Havane, avait acheté un hôtel, il avait organisé son business, s'est débarrassé de quelques concurrents dont ses amis. Mais bon, c'était le conseil qu'il avait demandé, il a été obligé d'arbitrer. Les Américains qui ont fait tellement pression sur Batista qu'il a été obligé d'expliquer à ce brave monsieur que Lucky Luciano de s'en aller.
Luciano prend pas de mesures contre Batista
Non.
D'accord.
Non, c'est une base arrière, il peut pas se permettre. Mais il sait ce qu'il fait quand même. Mais en fait, il va jamais faillir, il va toujours rester droit, il va dire bon, je m'en vais, c'est officiel. Et en fait, officiellement, il aurait perdu son titre du chef de syndicat du crime, mais en fait, ça, c'est pas très clair non plus. Et là, il va se lancer officiellement, clairement, dans une entreprise d'import-export. Il tisse des liens, en fait, vu qu'il était italien d'origine, il renforce ses liens, en fait, avec la Camorra, la Grangheta et la Cosa Nostra.
Ouais, les mafias locales, un peu.
Les trois principales. Et en fait, il dit qu'il y a... on peut faire quelque chose de gigantesque. Vu qu'il a des contacts aux États-Unis, la Grangheta, elle, qui est au nord, a des contacts avec la Turquie et quelques pays de l'Est. La Cosa Nostra a des contacts avec la Corse, donc la France. Il y a quelque chose à faire.
Ouais, ouais.
Et là, en fait, il va se lancer directement dans le trafic d'héroïne.
Ouais, avec la Turquie et le Moyen-Orient, ça a l'air d'être plutôt indiqué.
Voilà. Et là, il se commence, non seulement il commence à lancer, mais surtout il a compris une chose, qu'il y a une plaque tournante qui est extrêmement intéressante. C'est la France, le sud principalement, Marseille et ses alentours. Il dit la Turquie pas loin, l'Italie est pas loin, ça fait un sacré triangle.
Mmh.
Et à partir de là, va commencer ce que, d'ailleurs, c'est le titre d'un film.
La French Connection.
Voilà, tout va commencer là. Et en fait, on cultive et on achète en Turquie. Ça transite aussi par l'Iran et par ailleurs parce qu'on récupère. Mais tout va transiter par la Turquie. Et les Italiens se chargent de l'approvisionnement et du financement. Donc c'est leurs hommes qui s'en occupent. Comme ça, Luciano est beaucoup plus rassuré.
Oui.
Quand ça arrive à Marseille, c'est raffiné.
Ok.
Parce qu'il y a des très bons chimistes à Marseille.
Donc le pavot arrive à Marseille, il est transformé en opium, en héroïne à Marseille.
Voilà. Et à partir de là, on utilise des structures légales et illégales s'il le faut. Et on envoie tout aux États-Unis. Et en fait, le fait qu'il ait forgé tout ça... et surtout la pègre marseillaise et corse, notamment Antoine Guérini et Étienne Léandri.
Antoine Guérini qui avait fait de la résistance aussi pendant la guerre, non, c'est ça?
Oui, mais il était déjà dans le milieu.
D'accord, ouais.
Sur le milieu, n'a pas trop changé à l'époque. Et en fait, tous ces gens-là deviennent des courroies de transmission de tout ce système. Et en fait, fait que les Français vont venir aux États-Unis, voir comment ça fonctionne. Et aussi les Anglais qui vont s'en mêler un peu après. Et en fait, toute cette French Connection, ce sont des gens qui savent exactement ce qu'ils ont à faire et qui soudoyer et par qui passer.
C'est un côté intéressant d'un peu de donner la main à des groupes locaux qui ont plus de contacts que Luciano n'aurait pas forcément, par exemple.
Voilà, il les a pas. Donc il a besoin de gens qui parlent la langue, qui connaissent la culture et surtout qu'on les contacte nécessaires afin de pouvoir faciliter tout ça. Et donc ça va tourner plutôt bien. Et d'ailleurs c'est ce qui va lui permettre de, vu que les subsides américains, les enveloppes qu'on lui envoyait, ça menuise et s'espace, il a bien fallu qu'il trouve de l'argent ailleurs. Et là en fait oui, il a trouvé une rente, une espèce de rente.
Et ça il le fait sans l'aval du conseil, enfin je veux dire il a plus rien à voir là-dedans.
Si, parce que le conseil en profite, parce que c'est eux qui réceptionnent aux États-Unis.
Ah bah oui c'est vrai.
Et ils réceptionneront toujours. Lui il prend juste sa part au passage.
Finalement, c'est un créateur d'entreprise, ce Luciano.
Mais ça fonctionne comme une entreprise. Hein. Lui ou Meyer Lansky ont vite compris que c'était véritablement une famille. Une entreprise quasi familiale. Donc cette petite aventure va durer de 47, 48, 49 jusqu'à à peu près 50. Un peu plus même. Donc depuis Naples, c'est là qu'il va justement coincer Genovese lors d'une transaction.
Dans l'aéroport de Naples.
Voilà.
Ok.
Et... parce qu'en fait, il a averti les fédéraux de tout ce trafic et ça ne plaît pas beaucoup. Le conseil, ça ne lui plaît pas. Début des années 60, c'est là qu'il rentre avec son bras droit et fidèle financier, Meyer Lansky. Il le soupçonne de détourner des sommes qui lui sont dues.
D'où l'affaiblissement des enveloppes qui lui sont dues.
Et en fait, il va même renoncer à agir parce qu'à un moment, il a un doute parce qu'il voit que Meyer Lansky n'a pas le train de vie qu'il aurait dû avoir. Parce que Meyer Lansky parie beaucoup, perd beaucoup d'argent dans ces histoires-là.
Peut-être que c'est une façon de blanchir de l'argent, c'est de dissimuler des revenus.
Bah, le problème, c'est que Meyer Lansky, à la fin de sa vie, il n'avait véritablement rien.
D'accord.
Voilà. De façon légale ou légale, on n'a rien trouvé chez lui, ni dans ses caches que tout le monde connaît, du moins, qu'on avait réussi à identifier. Donc, alors, il faut savoir que quand il vit à Naples, il a quand même une petite villa où il y a 60 pièces.
C'est respectable.
Voilà. Mais en fait, il commence à changer. Il a plus l'air d'un vieux retraité, pacifique. Et... En plus, il a. Alors, c'est tardif pour lui parce que les autres étaient déjà mariés, avaient déjà des enfants. Mais lui, il va se marier avec une bourgeoise milanaise qui, malheureusement pour lui, mourra avant lui.
Ouais.
D'un cancer foudroyant d'ailleurs. Et en fait, il souffre de problèmes cardiaques qui auraient été plus ou moins liés à une syphilis mal soignée pour lui. Et ces traitements qu'il prend au fur et à mesure, il arrive à tenir. Mais le 26 janvier 1962, à l'aéroport de Naples, en fait, bah, il tombe.
Il y a un truc lié à cet aéroport, décidément.
Voilà. Donc, crise cardiaque. Il avait 64 ans. Et il n'y a jamais eu d'autopsie.
Non, ça, vous soupçonnez quelque chose ?
Non, mais beaucoup de gens, une partie de sa famille avait réclamé parce qu'il venait d'avaler justement une de ces pilules qui maintenait son cœur. Et en fait, la loi américaine, parce que c'était ceux qui étaient aux États-Unis qui avaient demandé qu'il y ait une autopsie, la loi américaine et le procureur avaient dit « Mais on ne considère pas qu'un cadavre a une nationalité quelconque. » De son vrai nom, Salvador Luciano. Mais en fait, il a été enterré quand même aux États-Unis parce qu'ils ont fait en sorte qu'il vienne au caveau familial. D'ailleurs, il avait fait l'acquisition en 1935. Hein. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, de son vivant, deux producteurs, dont un en particulier, qui étaient venus le voir en Sicile en disant « Voilà, maintenant que vous êtes loin des États-Unis, on pourrait faire le film de votre vie. » Ils acceptent, ils écrivent, mais lui-même participe à dire qui est qui fait quoi, dans quel sens, pourquoi faire.
Ça fait pas très omerta, ouais.
Non, en fait, il raconte quasiment tout. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on l'apprend. Le conseil l'apprend. Donc, on lui fait comprendre que non, là, un film sur sa vie à lui, avec ce qu'il sait, et comme c'est lui qui l'a organisé en plus, ça pourrait quasiment faire tomber l'édifice. On lui dit non, oublie cette idée.
C'est vrai que ça mériterait une autopsie, du coup, au vu de cette lumière.
Donc, le producteur ne le sait pas encore. Et, le producteur appelle Luke Cicciano, il dit « Oui, voilà, j'ai les financements pour le film, on a déjà mis de l'argent sur la table. » Luke Cicciano dit « Il faut que tu viennes en Italie, il faut que je te parle. » Donc, il ne parle pas au téléphone, déjà.
Vieux réflexe.
Donc, le producteur, apparemment, se doutait qu'il y avait un truc louche. Et Luke Cicciano lui explique « Écoute, on ne peut pas faire le film, le conseiller n'est pas d'accord. Et je ne le ferai pas. » Le petit dit « Ouais, moi, je m'en fous. T'es plus aux États-Unis. Moi, j'ai rien à faire avec dans ce milieu-là. » Et Luke Cicciano dit « Non, t'as pas compris. Je fais le film. Tu fais le film, je suis mort et toi derrière. »
Hein ?
Ah, ça calme.
Proposition qu'on ne peut pas refuser.
Non, par contre, ils vont lui proposer autre chose et là, il va accepter. Ils vont dire « Bon, bah, on va écrire ta biographie. » Et là, il dit oui. À une seule et unique condition, c'était dans le contrat, que ça sorte 10 ans après sa mort.
Oui, on peut comprendre.
Donc, comme je vous ai dit, il meurt en 1962. Le livre sort en 1972, 73 quasiment, et le film Lucky Luciano est réalisé en 1973.
Ah, c'est un film qui existe.
C'est un film qui existe.
Bah, je ne le connaissais pas.
À regarder, parce qu'il y a beaucoup d'éléments vrais, mais beaucoup tirés de la biographie de Lucky Luciano lui-même. Mais donc c'est sa propre vision.
Luciano, quand il raconte sa vie, il se gonfle un peu ou il est vraiment, alors, il raconte la vérité
Alors tantôt je le soupçonne d'en rajouter et tantôt d'en minimiser.
De cacher quelque chose, ouais.
Par exemple, son rôle avec les dockers, tout ça, il l'a plus ou moins minimisé.
Mm-hmm.
Alors que les preuves en face disent qu'en fait il a eu un rôle plus actif. Et surtout, il a eu un autre rôle beaucoup plus actif. Et là, c'est curieusement, quasiment tout le monde le minimise, sauf la presse américaine, le gouvernement américain. Le débarquement de Sicile en 1943 n'a pu se faire que par son intermédiaire. Car lui, il connaissait les gens qui vivaient en Sicile, connaissait une partie du milieu, vu qu'il les fréquentait au final. Il était aux États-Unis, n'oubliez pas.
Oui.
Donc, il leur a donné des noms. des gens à aller voir. En sachant qu'à l'époque en Italie, Mussolini a fait une grave erreur, c'est de se mettre en guerre avec la plupart des mafias.
D'où l'arrivée de pas mal de grands mafieux italiens aux États-Unis d'ailleurs.
Voilà. Et d'autres qui étaient restés et qui ont en réalité fait œuvre de courage et de résistance par rapport à Mussolini. Hein. Bon, surtout les Siciliens, parce qu'ils sont très fiers et très attachés à leur terre. Donc les Américains n'auraient pas pu débarquer en Italie et avancer vers l'Allemagne.
Sans le soutien des pontes.
Sans les contacts. Voilà, sans le soutien des pontes, mais grâce au contact de Luciano qu'il avait.
Ouais.
Et ça a été plus ou moins. Même lui, il a un peu minimisé ça. Et ça qui est curieux, c'est que sur certaines choses, il va très vite s'avancer. Et sur d'autres, il est un peu comme s'il avait un goût amer en disant « Oui, bon, j'ai aidé les États-Unis, mais bon, ils m'ont pas si bien remercié que ça. »
Ouais, peut-être une petite amertume, ouais, ouais, ce point de vue-là, parce que c'est toujours quand il est aux États-Unis aussi, les ports aussi, c'est quand il est des États-Unis.
Voilà.
Ouais.
Donc là, il se retrouve, quand on voit ça, on se dit « Bon, bah, comme c'est exactement ce qui s'est passé en France, hein, il y a eu des mafieux dans les mouvements de résistance et aussi bien dans la collaboration. »
On en parlait, la Guérini notamment.
Voilà. Donc beaucoup étaient... Mais ces gens-là, en fait, l'avantage qu'ils avaient... Aussi bien Luciano, Bugsy, toute la clique, c'est qu'ils avaient des contacts et des réseaux. Autant ils pouvaient te fournir de l'argent, mais surtout de l'armement.
Mmh.
Et quand on est en guerre, bah, à mon avis, on regarde pas trop qui est notre allié.
Ouais, ouais, ça peut toujours être utile d'avoir des contacts qui savent vous trouver des armes.
Mais surtout qui connaissent le terrain, parce que là, les Américains, quand ils sont arrivés lors de leur débarquement, la Sicile, ils connaissent pas.
Ouais.
Et qui dit, si on arrive en Sicile... Donc la Cosa Nostra qui est en Sicile a des contacts avec les Napolitains, donc la Camorra, et plus au nord la Grangheta.
Ouais.
Donc à partir de là on peut voir que en fait l'avancée américaine et des alliés en Italie, si on peut imaginer après tous les scénarios, si elle ne s'était pas faite par l'intermédiaire Lucky Luciano et des pontes de la mafia, elle aurait peut-être été beaucoup plus lente.
Ouais.
Je sais pas s'il serait arrivé, mais on peut dire bon. On va dire qu'ils y seraient arrivés, mais peut-être beaucoup plus lentement.
Et puis, il y a peut-être aussi une image d'envahisseur qui risquait de... Parce que les Siciliens envahir la Sicile, je pense qu'il faut être... Il faut se lever de bonne humeur. Hein.
Ouais. Beaucoup ont essayé. Hein. Mais beaucoup se sont mordus les doigts. Donc là, on voit bien vu que Luca Luciano a joué un rôle plus qu'important, autant sur le fait qu'il a réellement fait une chose qui est hors du commun. C'est quelqu'un qui a compris ce que c'était que le système de globalisation économique.
Ah bah là, la French Connection en est un excellent exemple. Hein.
Ah, c'est le meilleur exemple. Il a vite compris comment structurer une société dite secrète, parce que les mafias, il ne faut pas oublier que ce sont des sociétés secrètes avec leurs propres règles, leurs propres lois, doit fonctionner avec un système économique et industriel s'il le faut, à plusieurs échelons, pas qu'à un seul. Et on pourra dire ce qu'on veut sur ces criminels, ils ont fait un choix de vie, parce que c'est un choix de vie. La plupart des gens qui ont travaillé avec Lucky Luciano et d'autres, et même en Italie, même des repentis, hein, entre guillemets repentis, même si le terme est mal choisi, ont toujours dit que quand vous étiez juste et que vous saviez vous taire, ils étaient toujours récompensés. Et c'est pour ça qu'ils y restaient.
Une espèce de société presque plus que secrète, parallèle quelque part, non ? Avec ses propres règles, tout ça. Non ?
Ah oui, totalement. Et c'est plus que parallèle, parce que certaines vont complètement influer sur la vie politique, sur la vie économique. La crise de 29 a prouvé que la mafia avait déjà un pied à la bourse. D'ailleurs, ce qui est le plus drôle, c'est qu'à l'époque où les contrôleurs fiscaux commençaient à regarder vraiment ce qui se passait dans les comptes de certains et voir comment ils gagnaient leur argent, Lucky Luciano et Meyer Lansky, ils ont dit on va peut-être mettre un peu d'argent à la banque. Ils ont envoyé un des hommes de main qui a été à la banque pour se renseigner. La meilleure chose qu'il a fait, c'est de la braquer. Il a dit non, c'est une mauvaise idée. N'importe quel pleu vient, il braque la banque.
Quelque part, c'est un bon test de sécurité avant de placer son argent.
Ah oui, ben là, c'est plus qu'un bon test.
Nous ne le conseillons pas, mais...
Nous avons testé, on conseille pas. Il a été incapable de défendre l'argent d'autrui. Et c'est pour ça qu'en fait, toute cette période-là, avec tous ces gens-là, un, ils ont fait l'histoire des États-Unis. Si on devait faire, je sais pas, un grand annuaire de tous les mafieux... Après, ça, c'est un avis très personnel. Je classerais surtout Lucky Luciano en tête. Plus qu'Al Capone, plus que Meyer Lansky ou que les autres. Du fait que c'est quelqu'un très intuitif, extrêmement intelligent et qui a vite compris comment ça pouvait fonctionner.
Ils ont même influé sur l'histoire du monde, finalement, avec la Seconde Guerre mondiale, quand même.
Avec la Seconde Guerre mondiale, ils ont été des piliers dans certains jeux de stratégie. Même si après, pendant très longtemps, les États-Unis ont démenti en disant « Non, on n'a jamais fait appel à eux ». Même en France, hein, ça a été un tabou pour dire que une partie de la résistance dans le sud, surtout principalement de la France, était mêlée au milieu mafieux corse et marseillais, alors que c'était eux qui livraient les armes.
Là, on peut comprendre que ce soit un peu, sinon honteux, au moins un peu polémique, quoi, comme sujet.
Un peu gênant.
Ouais.
Mais ça prouve une chose, c'est que après, pour certains, je pense que c'était purement mercantile, hein, c'était juste un jeu de dupes. Bon, c'est facile de faire de l'argent pendant cette période. D'autres ont été beaucoup plus sincères, ne vendant et ne livrant des armes qu'aux résistants, pas aux deux camps. Parce que ceux qui livrent aux deux camps, on sait ce qu'ils cherchent.
Ça. Le
profit. D'autres ont réellement combattu, vendu, organisé et combattu.
Bah, j'imagine que le côté libertaire de ces sociétés, ces mafias, ces pègres, se retrouvent dans leur façon différente d'agir dans certaines situations, et là c'en est un bon exemple.
Ah bon, il y a eu plusieurs courants, ils se sont même combattus, hein. Sauf qu'à la fin de la guerre, ils se sont rabibochés.
Ouais.
Mais
business is business.
Ouais, puis le monde mafieux en France, pas oublier qu'il a vite continué. On appelle ça le milieu en général, jusqu'à Paris et ailleurs, avec des affaires troubles comme les frères Zemmour, réseau de prostitution et de drogue.
Les frères Zemmour, réseau de prostitution et de drogue. Il faudra qu'on en parle un jour, ça, docteur Mansour.
Ouais, les deux frères Zemmour, la famille Zemmour. Bah, vous avez vu le grand pardon ?
Non, j'ai pas vu, non.
Un Croget, un nain ?
Ah non, j'ai vraiment pas vu.
Bah ça, en fait, ça raconte cette espèce de guerre entre la famille Atlan et Zemmour, justement, qui a fini par un massacre assez sanglant.
Je le note, je vais absolument le voir, celui-là. Ouais.
Donc, alors, pour ceux qui veulent voir, donc, le film biographique sur Lucky Luciano qui est réalisé en 73, sorti en 74 par Francesco Rossi. Bon, alors, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais c'est un film intéressant vu qu'il est basé sur beaucoup de biographies. Bon, après, 1984, le Cotton Club de Francis Ford Coppola.
Monsieur Coppola.
Et en fait, vous avez aussi c'est une série télé, Boardwalk Empire.
Ouais, ça en parle beaucoup. Ouais.
Voilà. Où en fait, on voit Lucky Luciano dans certains 2-3 épisodes pendant la période de la Prohibition, justement.
Époque Rothstein.
Voilà. Et en 2016, en fait, c'est Bienvenue en Sicile, pour ceux qui veulent voir. Pareil, un film où on voit aussi Lucky Luciano.
Okay.
Donc en fait, il a beaucoup inspiré énormément de personnes, ouais. Et beaucoup de gens. Il a pas oublié qu'il a inspiré aussi d'autres films ou d'autres séries, même des personnages. Alors pour la tenue vestimentaire, pour ceux qui ont déjà vu ça, beaucoup se sont inspirés de Lucky Luciano ou de Al Capone. C'est deux styles bien différents, beaucoup plus sobre pour Lucky Luciano, beaucoup plus clinquant pour Al Capone.
Ça correspond bien à leur personnalité, hein, finalement.
Voilà. Un qui est beaucoup plus brillant et l'autre un peu plus discret. Et ce sera tout pour Lucky Luciano, et je vous expliquerai la semaine prochaine la hiérarchie des cinq familles et comment elles ont influencé plus ou moins aussi les liens avec l'Angleterre, avec les deux frères jumeaux qui étaient extrêmement cocasses et virulents dans leur manière de gérer les affaires.
Eh bien, vivement la semaine prochaine. Merci Doc Mansour pour ce voyage dans l'histoire des mafias, et on retrouve ça la semaine prochaine.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et on retrouvera ça la semaine prochaine. Et tout de suite, on retrouve, après cette petite musique, nos invités. Nous avons été rejoints par Louis également, donc deuxième Louis. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Et nous allons, avant de saluer Louis de façon plus ample, écouter un petit morceau. Curtis Mayfield, Superfly.
Yeah. No questions why. The only game you know. thing. What does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest. It's the most he'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, Superfly.
Mayfield Superfly.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Heureusement qu'il est là avec nous, Jérémy, toujours au taquet pour rattraper le coup quand je ne fais pas attention. On était sur un débat sur Tim Burton avec nos amis cinéastes. Messieurs donc, Cédric, les deux Louis.
C'est ça.
Et Adrien.
Exactement.
Oh, quel parfait talent pour une fois, chers auditeurs, j'ai retenu le nom de nos invités.
Quel nom exotique en plus.
Alors messieurs, ce soir, vous venez de nous parler d'un concours que vous faites et qui se passe ce soir, c'est bien ça? Vous voulez bien nous présenter ça un petit peu?
Vas-y, vas-y.
Alors, c'est une soirée sur le thème de Shaun of the Dead. C'est une soirée organisée par les Azimuts. Donc, ils vont diffuser le film. Et à côté de ça, il y a un petit concours pour suéder. Alors, on va vous expliquer après ce que c'est que le terme suédé. Mais le concours, c'est pour refaire une scène du film et avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas des grands cinéastes, et on n'a pas des millions derrière nous pour
encore
faire les choses bien. Pas encore, effectivement.
C'est une question de temps.
Ça viendra, messieurs, ça viendra. J'aurais envie de vous proposer, là on parle de Shaun of the Dead, c'est quand même un film très particulier. Est-ce qu'on ne s'écouterait pas la bande-annonce?
Tout à fait. Eh bien, écoutez, la bande-annonce de Shaun of the Dead, ça va être en VF.
Pour parfait.
Le confort de nos auditeurs francophones.
Vous vous êtes déjà dit que la vie moderne n'était pas vraiment votre tasse de thé? Vous faites tous les jours de la semaine le même boulot sans avenir. Votre grand amour commence à se faner?
Pour une mère sublime.
Oh. Vous avez parfois l'impression de devenir un...
C'est pas la fin du monde.
Zombie. Vous n'êtes peut-être pas seul.
Les responsables refusent de commenter les événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement dernier.
Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il est hautement recommandé d'éviter tout contact avec eux.
C'est quoi le plan?
Rappelez à la tête, ça a l'air de marcher.
Pourquoi aller chez Liz?
Parce que je l'aime.
D'accord, chérie.
Hey, c'est quelque chose!
Deux secondes. Et ne bougez plus.
J'arrive, maman!
Alors après, c'est que des bruits d'accidents de voiture et d'explosions, donc j'ai un petit peu raccourci la bande-annonce, quoi.
Oui, tu as bien fait. J'ai peur que ce ne soit pas très radiophonique. Bon, messieurs, Shaun of the Dead, ça a l'air quand même d'être un film un peu particulier. Vous connaissiez? Vous voulez bien nous parler un petit peu de ce film? Faire un petit speech?
Ouais, ouais, bah c'est l'histoire de deux jeunes, on va dire, jeunes adultes. Ouais, ils ont quoi? Ils ont
La trentaine.
Ils ont la trentaine, ouais, quand même. Ouais. Et donc, il y en a un des deux qui est pas très dégourdi, qui passe sa journée dans le canapé. Et il y en a un deuxième qui essaye un petit peu de se bouger, tout ça, mais il a du mal parce qu'il est tiraillé entre sa copine qui essaye de le bouger un petit peu et du coup son coloc qui fout rien. Et ça se passe dans une situation, bien sûr, où il y a une apocalypse, où les zombies arrivent. Et c'est marrant parce que le film joue vraiment sur l'ambiguïté entre le côté vachement drôle des zombies, c'est à chaque fois, et on n'est pas dans un film qui fait vraiment peur, il y a des screamers, mais on en fait exprès. C'est pour un petit peu, il joue vachement avec les codes du film d'horreur. Pour donner un film en fait comique.
Mais c'est une comédie, voilà.
Voilà. Ça, voilà.
Bah, ouais. c'est ce que le réalisateur du film, en fait, du coup, c'est ce que...
Edgar Wright,
exactement, avec les trois films, du coup, dont fait partie Shaun of the Dead, avec Le Dernier Peuple, La Fin du Monde, qui, lui, est une parodie de... Enfin, une parodie. Un film qui reprend les codes de la SF, et après, on a Hot Fuzz qui reprend les codes du film policier, et là, c'est ça, c'est les films de zombies, comme on connaît tous, justement, un peu détournés.
Ouais, enfin, le but c'est de démonter les codes aussi.
C'est une sorte de pastiche. Justement, pastiche, voilà qui ouvre moult questions. D'abord, j'aimerais quand même revenir rapidement. Cédric, tu nous as parlé du film suédois. Qu'est-ce que c'est que ça, le film suédois?
Alors en fait, déjà, le principe il est né avec Michel Gondry quand il a sorti son film Soyez sympa, rebambiné, Be Kind, Rewind. Et en fait, c'est un film d'où en gros il y avait des cassettes VHS. À l'époque, il n'y avait pas internet. Donc les gens n'étaient pas censés savoir que c'est des cassettes VHS dont les films allaient disparaître. Et donc, dans l'histoire du film. Et du coup, les vendeurs, les loueurs de ces cassettes se retrouvaient obligés, pour pouvoir vendre, de refaire les films à leur sauce, avec les moyens du bord, carton pâte. Et donc, ça donnait des films complètement farfelus, mais en fait très fun à voir. Et complètement proche des gens. Ce qui faisait que les gens rigolent et en même temps ils se sentent peut-être plus concernés par le fait de voir que c'est les gens qui connaissent, qui font les films avec des moyens. Ce qui en fait un super film. Et le principe ensuite a été repris parce que voilà, on a tous envie en regardant un film. Des fois, on regarde un film et puis on a vu Star Wars et puis on a envie d'être dans un vaisseau spatial dans notre voiture. Et du coup, on a tous envie de refaire des fois des films en voyant des films. Et on s'est dit, le principe a été repris comme ça. Et la ville des Azimuts, enfin la ville de Rouen, avec le biais des Azimuts, organise tous les ans ce concours, ce visionnage d'un film culte en fait. Souvent, c'est un film à prendre à la légère, qui est fun.
L'année dernière, c'était OSS 117.
Ouais, on va en reparler d'ailleurs.
Et du coup, c'est ce concours, voilà, où on peut tous participer.
Un peu plus réservé aux jeunes. Je crois que c'est 18-25 ans.
Jusqu'à 30 ans.
Jusqu'à 30 ans.
Je crois même que sur le papier, c'est marqué rendez-vous étudiant.
C'est un rendez-vous étudiant et jeune, mais c'est quand même. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même à la portée de tous les jeunes. Seulement. Bon, après, ça s'adresse quand même plus aux cinéastes parce que. Mais pas seulement, après quand on regarde un petit peu, il y a souvent des associations de cinéma, mais c'est vrai que l'année dernière il y avait SIGLEC, c'est ça qui avait participé.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça attire quand même du monde.
Tout le monde avec un smartphone.
Mais oui, voilà,
c'est même avec une séquence du film en fait.
Avec un téléphone,
un smartphone, d'un petit peu de volonté aussi, parce que faire un film ça prend du temps, parce qu'il faut après manipuler le montage, tout ça. Mais en fait, on peut très bien tourner, monter, c'est-à-dire faire une autre séquence, prendre une minute de film et puis enchaîner avec un autre film, une autre séquence, tout en plan séquence. Et voilà, on a fait notre film en deux minutes et c'est fait quoi.
Donc ce soir, ce concept de concours, un peu, on peut dire concours.
Oui, c'est un concours.
Donc, déjà, je rappelle pour nos chers auditeurs que la diffusion du film Shaun of the Dead aura lieu ce soir à l'Omnia, c'est gratuit, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, gratuit.
Et donc ensuite, on pourra voir vos courts-métrages.
C'est ça, donc la première partie, c'est 1h30, je crois, le film. Donc 21h30, 22h, ça va être terminé. Et je pense qu'aux alentours de 22h, 22h30, tous les films sont diffusés. Enfin, les films sélectionnés, il y en a 6 en tout.
Ils sont tous diffusés à la suite. Et puis après, vote du jury, vote du public.
Voilà, et mention spéciale aussi.
Il y a le prix du jury, le prix du public. Donc ça comment dire, c'est vraiment utile que vous veniez.
Ouais, c'est ça, si vous venez après c'est bien parce que du coup il y a un peu de monde et c'est bon enfant, c'est surtout
gratuit.
Faut appuyer là-dessus, c'est gratuit, c'est à l'Omnia.
C'est l'esprit participatif surtout qui est voulu avec le vote du public, mais en vrai, le but c'est de s'éclater, il y a pas forcément de concurrents, de compétition. Voilà, on va tous bien s'éclater en regardant le film de chacun.
On connaît nos adversaires pour la plupart du monde, enfin voilà, nos concurrents.
Bon bah messieurs, je vous propose, avant qu'on parle plus en avant de votre film, de s'écouter un petit morceau de musique, on aime bien ça sur HDR, c'est les Egyptians avec Too Bad Mind.
Some people too bad mind. In a me life, them while I start from shine. Go and change your style. Nicky Thief, Carol goes up out the line. What a girl bad mind.
Tara down, go on no dancing tonight. Oh, why you watching what is mine? Well, your business are spoiled. You go and left yourself in a box this time. In a bad stop, you do bad mind. Watch your life and let some light shine bright. Because if you bad mind, you won't make it in this time. Me say some people too bad mind. In my life, them want life to stop from shine. Go and change your style. Go and change your style. Bad minded people want to see the righteous one goes down. Corrupted thinking people want to see the righteous one fall down. Oh, oh. People are criticizing and chatting me. Nothing. But if me broke today, me not gonna see none of them. If me not sing, all of them gone from me again. So watch yourself, Mr. Bad Mind. You can't hurt I in a this time. Some people too bad mind. In a me life, them want life to stop from shine. Go and change your style. Iniquity can rise in a this time. Some people too bad mind.
C'était l'Egyptian avec Too Bad Mind et j'espère que Marie, si elle nous écoute, approuve mon accent. Nous sommes toujours avec ces messieurs, Cédric, je l'ai... Oh, non, c'est pas Augustin.
Adrien.
C'est la chute, la fin d'un rêve. Et les deux Louis. Moi, j'aime bien
c'est plus simple.
Quand on a les invités qui ont les mêmes noms, c'est quand même plus simple. Et on parle ce soir du concours de films suédois, messieurs, comment dire, de court-métrage suédois. On peut dire court-métrage dans ce type de contexte.
Oui, c'est un court-métrage. De toute façon, c'est un film court, donc court-métrage.
Donc vous, messieurs, vous me disiez pendant la pause quelque chose de très intéressant. À la base, vous étiez concurrents l'an dernier, c'est ça?
Oui, en soi, c'est ça.
Bien, ça
ouais. Bah, ouais.
Nous deux, les deux Louis avec Adrien, on était l'écurie Studio Effigie.
Si ouais, c'est ça.
Et puis bah, Cédric, moi j'étais pas là, j'ai pas vu ce que t'as fait.
Moi. Alors moi je fais partie de l'association Archimède Film, ouais. Et du coup c'était par le biais de mon association, encore aussi, cette année aussi, que je faisais le film, et du coup d'où l'idée là d'avoir un partenariat Studio FJ, Archimède Film,
ouais.
et ensemble réunir les forces, parce alors, que plus on est nombreux, plus on est fort.
Ce qui s'est passé aussi, c'est que moi j'ai été pris super bien aussi, c'est dans l'Archimède Film, je fais aussi partie d'Archimède Film cette année. Et du coup, je suis en service civique. Et c'est aussi comme ça qu'avec Cédric, on a été amené à discuter et comparer et dire bon, bah voilà, faut qu'on fasse ça ensemble.
Louis, tu es en service civique.
Et oui, je suis en service civique.
Moi aussi, le
deuxième
Louis.
On ne m'avait
pas aussi
prévenu. Vous réentendrez Louis à notre antenne très bientôt. du coup, oui, on parlait pastiche. D'abord, j'aimerais bien rappeler, bien sûr, que Archimède Film, nos amis d'Archimède Film, font une espèce de petit événement pour aider les jeunes du coin.
En ce moment, donc là, on n'a pas vraiment de titre qui est porteur du. Si ce n'est Viens faire ton cinéma à la radio, je crois que c'est le truc.
On est partenaire Radio HDR.
Et voilà. Et donc là, en ce moment, on recherche des jeunes pour un projet sur, en fait, le Haut-de-Rouen. Si tu fais partie du Haut-de-Rouen, tout ça, viens, il faut que tu viennes. Adrien, d'ailleurs, qui est là, on va faire partie du projet. Et donc, on essaye de mettre en place la réalisation qui part de l'écriture jusqu'à la réalisation, le montage, tout de A à Z. Et donc, on propose ça aux jeunes des Hauts-de-Rouen et plus encore.
Profitez-en, c'est une sacrée opportunité de découvrir un petit peu le monde du cinéma. Et une question aussi qui pourrait nous donner l'opportunité de découvrir un petit peu le monde du cinéma, messieurs. Donc là, vous avez fait ce film tous les quatre, hein, ce court-métrage. Qui fait quoi?
Alors là, c'est ça dépend. Je pense
c'est partagé, vraiment.
C'est partagé, ouais.
Parce qu'on a tous envie de tout faire, en fait.
Alors,
parce
eux, c'est le groupe et c'est moi qui réalise. Non, je rigole. non, mais
après, Louis, c'est vrai qu'il y a... Je pense que Louis Gogli, pour différencier de Louis, a mis aussi un peu plus de son temps.
Non, mais après, c'est le seul... L'initiative, au départ, parce qu'on a dialogué un petit peu avec Elian Pirio, qui fait partie du service, je crois, des Azimuts,
c'est
tout ça.
Qui
et donc, moi, comme nous, on travaille avec lui, il m'a reparlé du concours l'année dernière, on l'avait fait. C'est vrai que j'avais encore un peu en tête l'idée peut-être de le faire. Et j'ai préparé un peu une ébauche de scénario. Et quand je suis venu voir Cédric, il y avait Arthur aussi qui était sur le projet, qui nous a beaucoup aidé. En fait, à trois, on a vraiment
commencer à vraiment avoir un scénario bien établi. Et ensuite, on a parlé avec Louis, tout le monde, et on a eu beaucoup de gens parce qu'on a un peu de contact partout. Je pense à Théa, qui nous a beaucoup aidé au niveau du maquillage, surtout pour Shaun of the Dead, parce qu'il y a des zombies, tout ça.
Est-ce qu'on a un zombie là autour de la table?
Je crois que non, il y avait nous on n'a pas été zombies, nous.
Nous non.
Vous avez même pas ramené de zombies, quoi.
Bah non, ils seront là ce soir, donc venez à la. Il y aura toute l'équipe de tournage par contre
si
ce soir.
Si vous voulez vous faire peur, venez au cinéma.
Voilà, c'est ça.
Si vous voulez voir des zombies, venez à Radio HDR avant que le café soit prêt.
Faut venir vers 9h.
Moi j'ai une question, Damien.
Vas-y, lance-toi.
L'année dernière c'était OSS 117. Ouais. En fait c'était une parodie ce film. Est-ce qu'ils en font exprès déjà l'Omnia de faire des films CD autour de parodies? Et puis deuxième question, est-ce que c'est pas plus dur de faire un film CD d'une parodie plutôt que faire un film CD genre du Titanic?
Alors moi je peux peut-être un peu plus répondre parce que ça fait plus que la cinquième fois que je participe au concours CD. Ouais. Et du coup en vrai à chaque fois ils prennent des films cultes. Forcément, parce que la première partie de soirée, c'est regarder le film. Donc l'idée, c'est surtout aussi de divertir un peu tout le monde. Tout le monde ne reste pas pour regarder les films suédois. Tant mieux, ils ont qu'à aller, ils étudient le lendemain, donc forcément, il faut que les gens aillent se coucher. Mais la deuxième partie de soirée, ben, forcément, c'est pour le suédois, c'est bien aussi de se dire, bon, on est dans une ambiance un peu cool en reprenant un film qu'on aime bien. Mais quand on commence à tourner, à écrire et à se rendre compte que forcément, c'est plus facile d'avoir un film qui est fait avec beaucoup plus de sérieux et qui avec des codes simples. Et de démonter les codes, parce que c'est aussi le but du film suédois, c'est de démonter les codes. Alors quand un film déjà démonte les codes, comment on peut démonter les codes d'un film qui démonte les codes? C'est d'autant plus creuser les méninges, et c'est après du coup ça rend le truc un peu plus fun, quoi. Enfin, mais effectivement c'est vraiment pas facile.
Mais là c'est depuis 2 ans, parce que on a eu l'année dernière donc OSS 117, cette année Shaun of the Dead, qui sont quand même 2 films assez parodiques. Mais avant il me semble qu'il y a eu The Big Lebowski, il y a eu Retour vers le futur, des films un peu plus.
Si par exemple ils donnaient un film comme James Bond, là on ferait du OSS 117, c'est ça le truc. C'est que moi j'ai trouvé Shaun of the Dead un peu plus facile que OSS 117, parce que OSS c'est des blagues très très lourdes, très marquées, il y a plein de choses, c'est compliqué de reprendre ça.
Et alors que Shaun c'était un peu plus simple. C'est aussi vachement porté par Jean Dujardin.
Oui, voilà, aussi.
Comme cette émission est portée par Jérémy, dont on dit parfois qu'il aime quand on l'enduit d'huile.
Du coup, très bonne question, Jérémy.
Et petite question aussi qui m'intéresse, puisque je suis un homme curieux. Quelle scène vous avez choisi de Shaun of the Dead?
Alors.
Et pourquoi?
On a pris le plan séquence. En fait, il y a plusieurs scènes, on n'a pas fait qu'une seule scène. Il y en a une qu'on a un peu plus inventée, qui se base sur les scènes où il se prépare pour aller au travail, tout ça. Et le plus gros, c'était le plan séquence quand il sort et qu'il y a les zombies qui sont et qu'il les remarque pas du tout. En fait, il sort dehors et il va chercher une canette et un cornetto. D'ailleurs, c'est là où on voit le cornetto. Et du coup, nous, on a repris ce plan séquence-là.
Parce que dans la trilogie du cornetto, j'en profite pour le dire, il y a un cornetto de couleur différente dans chaque film.
Voilà.
Voilà, je suis renseigné, je suis un animateur au courant,
mesdames et messieurs.
Est-ce qu'on peut se mettre leur... ils nous ont ramené un court extrait de leur court-métrage.
Hein, oui. J'étais sur le point de te le proposer, Jérémy.
Peut-être que ça évoquera ce qui se passe.
T'attends quelqu'un?
Non.
Ça a l'air de faire peur.
C'est compliqué dans 5 minutes de film de trouver le moment. En plus, on n'a pas essayé de trop faire sur le...
Non, mais ça, c'était le moment, vous inquiétez.
Mais ouais, voilà. En fait, là, il y a une ouverture de porte, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc voilà, venez voir si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette porte.
Exactement, le gros suspense.
C'est ça.
Est-ce que tu m'as pas dit, Louis, tout à l'heure, que dans votre séquence, il y avait un plan d'ensemble avec plein de zombies?
Ouais, c'est ça.
Alors, comment ça s'est passé?
On spoil pas, attention.
En fait, ça, c'était le plan séquence déjà de base, c'est compliqué parce que nous, on s'était dit, et encore, on aurait pu en faire encore plus, mais manque de figurants aussi, c'est ça le souci. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Mais du coup, on devait organiser, il y avait plusieurs passages. C'est comme si on disait, on passe d'un point A à un point B, puis on revient du point B au point A. Sauf qu'on changeait tout ce qu'il y avait. Et il y a du coup une scène où il y a plein de zombies, donc c'est l'organisation, tout ça. Mais on s'était tous préparés, tout le monde a été super sympa, et ça c'était super aussi que sur le tournage tout le monde était volontaire et il n'y a pas eu de réticence, les gens ont pris sur eux, et ça c'était super parce que vraiment
c'était mon premier tournage avec autant de figurants
c'était un défi, c'était notre défi, on s'était dit on fait ça pour le défi.
Puis il y avait l'installation dans la rue parce que on voulait du suédois, donc on a mis 2-3 trucs en carton, il y avait les gens qui passaient, tout ça, donc ce plan là dehors c'était l'organisation.
Vous avez fait sortir une horde de zombies dans les rues de Rouen.
Ouais, peut-être.
Ouais. 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 Ouais, si, c'est ça.
Bon, messieurs, malheureusement, le temps file et en plus, on va devoir vous laisser parce que vous allez devoir aller gagner un concours.
Oui, non, pas gagner. Diffuser, notre film est diffusé.
C'est quoi pour les gagnants?
Alors, je crois que les deux. Alors, prix du jury et prix du public, c'est des GoPro Hero 4 Black. Je crois qu'il y a un truc, ça doit être ça.
Je crois que c'est même
on ne sait pas, ça ne nous intéresse pas.
Si on gagne, tant mieux, mais on verra bien. De toute façon, c'est aussi pour voir ce que les autres ont fait parce qu'on a passé du temps dessus et j'ai hâte de voir ce que les autres ont fait, voir comment on se situe dans tout ça. Quoi.
Une super ambiance. Je vous propose quand même de nous rappeler avant qu'on ne se sépare tristement. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Qu'est-ce que vous avez sur le feu? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe?
Ah oui, alors d'abord...
Vas-y avec Archimède, ouais.
Archimède, bah, on l'a dit tout à l'heure, le projet avec HDR, pour, du coup, participatif.
C'est quand la prochaine réunion?
La réunion, là, on n'en a pas refixé, mais il va y avoir une sensibilisation au niveau de HDR. Et je crois qu'il va y avoir plusieurs gens qui ont été contactés et tout ça, et il va y avoir une petite séance de sensibilisation au cinéma. Quoi,
en fait, déjà, on a réuni un peu les futurs participants, ceux qui étaient intéressés, voir s'ils allaient vraiment être intéressés pour aller continuer. Et mais vous pouvez nous contacter, hein, Archimède Film, aller sur notre site internet, notre page Facebook, pour pouvoir, si vous avez encore envie de vous rejoindre l'aventure, n'hésitez pas.
Suivez la page Facebook de Radio HDR parce qu'on va vous en reparler. Vous, messieurs, très vite.
Alors, moi, je vais parler un peu du studio FJ.
Très vite, par contre, ce qu'on va commencer à manquer.
Rapidement, donc, studio FJ, tout d'abord la page Facebook. En ce moment, on s'est retrouvés pas pour le concours des Azimuts. Ça faisait longtemps qu'on avait travaillé tous ensemble et là, ça fait plaisir. Donc peut-être des choses à venir.
Oui, on écrit beaucoup en ce moment. On est plus dans une phase d'écriture.
Studio FJ.
Il y a une évolution qui va arriver pour le studio FJ. Mais on se retrouve là et on va balancer le film une fois que le concours sera terminé.
Déjà.
Sur la page studio FJ. Sur
le et Esperluette. Voilà,
en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres partenariats avec vous parce que c'était vraiment cool.
De toute façon, on n'a pas fini d'entendre parler de vous, messieurs, et de Archimède, et de studio FJ, et de Louis qui est service civique. Et vous savez, à Radio HDR, on cherche des services civiques comme des Pokémon dans Pokémon.
Il est fiché.
Voilà. C'est déjà 17h58 et 37 secondes et c'est le moment où on va bientôt se dire au revoir. Mais d'abord, bien sûr, vous le savez, on va vous parler des programmes qu'il y a ensuite. Je sais que nombre d'entre vous hier étaient très déçus car, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de Campus Mag. Eh bien, rassurez-vous, mesdames et messieurs, il est là, je le vois, le grand Loïc, le puissant Loïc.
Il s'installe.
Il va vous faire Campus Mag en live juste après moi. Je lui chauffe le siège, pardon. Et sur, bien sûr, nos amis de Principe Actif, il y aura Hit the Road Together, que je ne vous présente plus, puisque je vous présente tous les jeudis. Je vous rappelle que c'est au 102.4, 95.9. Et nous, on est au 99.1 et on vous aime. Salut à tous et à la semaine prochaine. Et à demain.